Bonsoir à vous tous, chercheurs de Dieu. Chercheurs de Dieu comme Olga, qui est parmi nous ce soir, comme catéchumène. Aux néophytes, aux nouveaux baptisés de Pâques, bienvenue. Et bienvenue à nous tous, à vous tous, qui êtes baptisés depuis plus ou moins longue date. Vous êtes invités ce soir à la troisième catéchèse mystagogique qui porte plus particulièrement sur le thème de la chrismation. Ce soir, donc, nous serons invités à intérioriser le don qui nous a été fait lors de notre confirmation. Or, il s'agit d'un mystère, et vous savez comme moi qu'on ne comprend le mystère qu'en y entrant. Mais comment y entrer? La catéchèse mystagogique de ce soir veut, dans un premier temps, nourrir notre intelligence pour nous aider à mieux comprendre ce qui a été vécu lors de notre confirmation. Nous le ferons avec un enseignement qui s'appuie sur les pères de l'Église et plus particulièrement sur un père de l'Église du IVe siècle, Saint Cyrille de Jérusalem, que certains d'entre vous commencent à connaître. Pour nous y aider ce soir, nous avons installé dans le cœur de ce sanctuaire des symboles évocateurs, comme la cuve baptismale, le cierge pascal, qui viennent nous rappeler encore une fois ce soir les milliers d'hommes et de femmes qui, à travers le monde, ont été baptisés en cette veillée pascale, en cette nuit pascale, et qui vient aussi nous rappeler notre propre baptême. Ce soir aussi, nous trouvons dans cette présentation une amphore qui a été posée près de la cuve baptismale et qui, lors de la messe chrismale le 16 avril dernier, a reçu le Saint-Crème, l'huile qui servira tout au long de l'année au baptême, aux confirmations, aux ordinations. L'onction avec le Saint-Crème est le signe principal du sacrement de la confirmation. Ce soir, Madame Angèle Assalian, qui a un amour que vous ne tarderez pas à découvrir pour les pères de l'Église, nous aidera à prendre appui sur ce qui a été vécu dans ce sacrement il y a peut-être bien longtemps, pour nous aider à entrer davantage dans la découverte de l'amour gratuit de Dieu qu'il a voulu nous manifester. La liturgie nous aidera à poursuivre cette méditation par le chant des vêpres et par l'Eucharistie. Bonne veillée et que l'Esprit Saint nous guide et nous inspire.
Et bienvenue en cette troisième catéchèse. La chrismation, d'après Cyrille de Jérusalem, va vous faire découvrir ou approfondir ce qui s'est passé pour vous lors de votre confirmation. Un parcours à travers le Nouveau Testament va vous permettre de retrouver la source du sacrement de la confirmation. Vous recevrez aussi la signification des rites à partir de l'Ancien Testament. Vous allez découvrir comment le signe de la participation au Saint-Esprit vous a été donné. Seule la lumière de la foi peut permettre de saisir le sens de ces rites. Les rites ne parlent pas seulement à l'intelligence, mais ils parlent surtout au cœur. Les pères de l'Église donneront leur éclairage. Dans sa première épître, Saint Jean nous écrit: vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous connaissez toutes choses. Commentant ce verset, saint Augustin nous dit: c'est le maître intérieur qui enseigne, le Christ qui enseigne, son inspiration qui enseigne. Où ne sont pas son inspiration et son onction, les mots du dehors sont inutiles. Le maître est à l'intérieur, l'hôte est à l'intérieur, l'esprit travaille votre esprit. Par l'onction maintenant, l'écho des paroles résonne en vous. Et avec le credo de Nicée, nous disons « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne vie ». Le baptême et l'Eucharistie, le sacrement de confirmation constitue l'ensemble des sacrements d'initiation chrétienne, dont l'unité doit être sauvegardée. Remontons aux Saintes Écritures pour découvrir l'origine de la confirmation. Le Seigneur, fortifié par la présence et l'aide de l'Esprit, fut poussé à entreprendre sa mission. Dès le début, nous le rapporte Saint-Luc, il entra dans une synagogue et dit, en faisant référence au prophète Isaïe, « L'Esprit Saint du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction. » Au chapitre 3 de Saint Jean, le Seigneur a donné à Nicodème un message concis, précis, presque un impératif. Il vous faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Mais pour entrer, précise Jésus, il vous faut naître de l'eau et de l'esprit. Alors, en vérité, je vous dis, si un homme ne renaît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À plusieurs reprises durant sa vie publique, le Christ a promis l'esprit. Dans Saint Jean, nous retrouvons des paroles du Sauveur sur le Saint-Esprit. « Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Jésus a promis l'Esprit Saint aux apôtres. Avant de monter au ciel, il leur avait dit, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors le Seigneur leur promet une force pour témoigner. Alors, Jésus promettait, mais maintenant il leur a donné l'Esprit Saint. Quand le jour de la Pentecôte arriva, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un coup de vent violent. Alors, leur apparut des langues qu'on aurait dit du feu, qui se partageaient. Et il s'en posa un sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Alors, remplis de l'Esprit Saint, les apôtres commencent à proclamer les merveilles de Dieu. Ceux qui écoutaient Pierre, qui témoignait du Seigneur, lui demanda ce qu'il devait faire. Alors Pierre leur dit, « Faites pénitence et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir la rémission des péchés. » Vous recevrez le don de l'Esprit Saint. En poursuivant dans les Actes des Apôtres, nous soulignons l'action de l'Esprit Saint aux origines de l'Église naissante. Une fois arrivés en Samarie, Pierre et Jean prièrent les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Alors Pierre et Jean leur imposèrent la main et ils reçurent l'Esprit Saint. Une autre fois, dans les Actes des Apôtres, nous trouvons que Saint Paul s'est rendu à Éphèse et après l'avoir entendu, les Éphésiens se firent baptiser et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Alors voici deux exemples dont je viens de vous parler où vraiment il y a une imposition des mains pour que l'Esprit Saint vienne sur les convertis. Nous remarquons que le fondement du sacrement de confirmation se trouve dans les Actes des Apôtres, parce qu'il parle explicitement du don de l'Esprit Saint par le geste de l'imposition des mains. Paul VI va nous dire, l'imposition des mains est à bon endroit reconnue par la tradition comme l'origine du sacrement de confirmation qui perpétue en quelque sorte dans l'Église la grâce de la Pentecôte. Alors maintenant, quelques éclairages des pères de l'Église. Saint Jean-Paul II, maintenant on l'appelle comme ça, dans la lettre qu'il a écrite, les pères de l'Église, qu'il a écrite lorsque, pour célébrer le centenaire de la mort, excusez-moi, le 16e centenaire de la mort de Saint Basile. Alors, il appelle père les théologiens de l'Antiquité qui, par la force de leur foi, par l'élévation et la fécondité de leur doctrine, ont donné à l'Église une vigueur nouvelle et un nouvel essor. C'est toujours Saint Jean-Paul II qui dit, ils sont reconnus pour la rectitude de leur enseignement, la sainteté de vie et leur ancienneté et l'approbation de l'Église. Ils nous ont commenté toutes les saintes écritures, réfuté les erreurs, préparé des catéchèses baptismales. Juste Saint Basile, avant d'écrire les catéchèses mystagogiques saintes, il en a fait une vingtaine, juste pour donner des catéchèses aux catéchumènes. Alors, ils ont rédigé des catéchèses aussi, quelques-uns ont rédigé des catéchèses mystagogiques, et ils ont forgé la liturgie. Alors, dans les écrits du Père du IIe siècle, on retrouve mention des sacrements, du baptême et de l'Eucharistie. L'esprit qui imprimait sur les nouveaux baptisés sa marque, son sceau, était donné en même temps que le baptême. Très tôt, pour mieux signifier le don de l'Esprit Saint, s'est ajouté à l'imposition des mains une onction d'huile parfumée. Alors, on gardait toujours la tradition initiale des apôtres avec l'imposition des mains. Et ensuite, pour accentuer, ils ont ajouté une onction avec l'huile parfumée que nous nommons le Saint-Crème, qui a été béni à la messe chrismale. Voici quelques éclairages des pères parmi les plus illustres. IIIe siècle, malgré que les écrits des pères ne font mention que du baptême et de l'Eucharistie, ne parlent pas de confirmation, mais on retrouve une onction post-baptismale. Tout de suite après le baptême, il y avait une onction avec le Saint-Crème. Il faut encore noter que durant les trois premiers siècles, le baptême était directement administré par l'évêque au cours de la nuit pascale. Après une préparation intensive durant le carême, alors vous savez que le carême a été préparé ou institué ou planifié pour les catéchumènes. Et là, il commençait par jeûner d'abord. Ainsi, au sortir du bain baptismal, le nouveau baptisé recevait le sacrement de confirmation par l'onction et l'imposition des mains. Avec Tertullien, dans son traité du baptême, nous retrouvons et l'onction post-baptismale et l'imposition des mains. Il va dire, et je cite, à la sortie du bain, nous recevons l'onction d'huile bénie, puis on nous impose les mains en appelant et en conviant l'Esprit Saint par une bénédiction. Un autre père de l'Église, Saint Cyprien de Carthage, vers 250, va écrire, les nouveaux baptisés doivent se présenter devant les chefs de l'Église pour recevoir par l'invocation et l'imposition des mains, pour recevoir l'Esprit Saint par l'invocation et l'imposition des mains et être perfectionnés par le signaculum du Seigneur. Signaculum qui veut dire exactement, c'est un mot grec qui signifie sceau, empreinte. Il désigne une onction en forme de croix. La double onction romaine avec Saint Hippolyte de Rome en 215, il avait écrit dans un livre qui s'appelait La Tradition apostolique, c'est un règlement ecclésiastique qu'il a écrit à Rome. Il commence par nous décrire la triple immersion qui correspond avec la formule baptismale. Puis il note, quand le catéchumène sera remonté, il sera ouvert d'abord par le prêtre. De l'huile d'action de grâce avec ces mots, je t'oins d'huile sainte au nom de Jésus-Christ. Alors d'abord c'était le prêtre, il y avait un prêtre qui l'attendait à la sortie de son baptême. À peine il sortait, le prêtre lui donnait une onction. Et ensuite l'évêque, en lui imposant les mains, va dire, Seigneur Dieu qui les a rendus dignes d'obtenir la rémission des péchés, par le bain de régénération, c'est le baptême. Alors que veut dire régénération? C'est le retour à l'état initial, retrouver ses propriétés antérieures. Rends-les dignes d'être remplis de l'Esprit Saint. Envoie sur eux ta grâce, afin qu'ils te servent selon ta volonté. Ensuite, en répandant de l'huile d'action de grâce de sa main et en posant celle-ci sur la tête, il va reprendre la formule. Et ensuite, il va signer sur le front, il va faire un signe de croix sur le front, et il va lui donner un baiser en disant « Le Seigneur est avec toi ». Alors, cette double action post-baptismale, l'une par le prêtre et l'autre par l'évêque, propre au rite latin, va expliquer beaucoup de choses dans l'évolution du sacrement de confirmation. Au IVe siècle maintenant, saint Ambroise de Milan, un maître catéchétique, disait aux néophytes, les nouveaux baptisés, alors lui, il va nommer les dons de l'Esprit-Saint. Il va dire, remémore-toi le signe spirituel qui t'a marqué. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété, de sainte crainte, et garde bien ce que tu as reçu. Lui, c'est un des premiers qui les a énumérés pendant qu'il donnait sa catéchèse mystagogique. Le soulignait le pape Paul VI dans sa constitution apostolique de 1971, la manière de conférer le don de l'Esprit-Saint a donné lieu dans l'Église depuis l'Antiquité à des rites variés. C'est-à-dire, il y en a parfois que c'était et l'onction et l'imposition des mains, parfois c'était l'onction. Ils connurent des changements divers en conservant toujours cependant la même signification, communiquer le Saint-Esprit. Il rappelait aussi l'évolution de l'administration du sacrement de confirmation en insistant sur le rite essentiel de l'imposition de la main et de l'onction d'une façon simultanée. Alors, comme vous le savez, comme je viens de le dire, dans l'Église primitive, il était d'usage de donner l'onction tout de suite après le baptême, mais avec l'expansion du christianisme et avec la préoccupation de baptiser à la naissance les enfants, dès le 6e siècle, et de pouvoir conserver, ce qui était très important, l'unité autour de l'évêque, revenait la charge de confirmer. C'était juste l'évêque qui confirmait. Alors, on a établi la structure baptême, eucharistique, confirmation. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui pour le baptême des enfants. Cependant, avec le baptême des adultes, que nous retrouvons pour eux la structure primitive baptême, confirmation eucharistique, parce qu'ils se donnent les trois en même temps. Et surtout, on insiste beaucoup pour que ce soit vraiment pendant la veillée pascale. Alors, avant d'aborder la chrismation de Cyrille de Jérusalem, je veux juste définir le thème confirmation. Le mot confirmation, il y a un verbe confirmer, dans le sens classique, c'est affermir, raffermir, renformer, achever. Il a commencé à désigner aussi un accroissement, un affermissement, un encouragement. Ce sont les conciles du 5e siècle qui ont commencé, qui les premiers ont employé ce mot confirmation pour désigner le rite que l'on commence à séparer de l'action liturgique. Parce qu'avant, les trois étaient ensemble, et ensuite, ils ont, pour baptiser les enfants dès leur jeune âge, qu'ils soient enfants de Dieu, alors ils ont commencé à séparer le rite de l'action liturgique. La confirmation est entendue en continuité avec le baptême, même si elle est donnée plus tard, auquel elle est liée d'une manière inséparable. Ces deux sacrements avec l'Eucharistie forment un unique événement salvifique que l'on appelle l'initiation chrétienne. On parlait d'onction post-baptismale, mais un père de l'Église, saint Cyrille de Jérusalem, va l'appeler chrismation. Pourquoi il va l'appeler chrismation? Parce que le mot Messie veut dire « ouin de Yahvé » en hébreu. En grec, « ouin », c'est « chrismé ». D'où le nom Christ et notre nom de chrétien. Ça vient de là. Cyrille attache aussi beaucoup d'importance à la tradition antique de l'Ancien Testament et surtout à l'utilisation de l'huile et à son symbolisme, comme nous le verrons. Voici ce que Cyrille, au IVe siècle, nous dit dès le début de sa catéchèse. baptisé dans le Christ. Ayant revêtu le Christ, vous êtes devenu conforme au Fils de Dieu. Vous êtes devenu des Christ en recevant l'empreinte de l'Esprit Saint. Et tout s'est accompli sur vous en image parce que vous êtes des images du Christ. Le baptême ne se donne que par la foi. Et vous avez été plongé dans la mort et la résurrection du Seigneur. Comment avez-vous revêtu le Christ? Par le baptême, en rejetant les œuvres des ténèbres, il y avait la renonciation, en revêtant les armes de lumière, en crucifiant le vieil homme, lorsqu'on a l'eau maintenant, mais avant on descendait dans la piscine, et en revêtant l'homme nouveau lorsqu'on remontait par la mort et la résurrection du Seigneur. En étant greffé sur le Fils, vous êtes devenu une même plante et conforme à lui. En tous les cas, les dames ou les messieurs qui font un petit peu de jardinage, ils savent que ça veut dire greffer un petit sarment. Alors, ils greffent, puis le sarment, il fait partie de la plante. Dieu nous a choisis, élus, prédestinés par un pur effet de sa volonté, par sa seule grâce à l'adoption de fils et de filles. C'est le plan de Dieu pour nous tous et c'est toute l'histoire du salut. Alors, vous êtes devenus des Christ en recevant l'empreinte de l'Esprit Saint. Alors, comme je viens de le dire, Christ qui veut dire qui a reçu l'onction, qui a été oint. Et vous avez été chrismé. C'est ce qui s'est produit historiquement au jour du baptême de Jésus, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur lui. L'épisode du baptême du Seigneur est repris par les quatre évangélistes. Lorsque Jésus sortit ou remonta du Jourdain après son baptême, Saint Luc note qu'il priait. Alors, les cieux s'ouvrirent, l'Esprit descendit du ciel sous une forme de colombe et demeura. Les cieux s'ouvrirent. L'Esprit repose de toute éternité sur le Fils, mais sa présence sur la nature humaine du Fils a été manifestée lorsqu'il remonta des eaux du Jourdain. Et voici qu'une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Alors, Jésus y a été oint d'Esprit Saint et de puissance en vue de sa mission. Et pour vous, la confirmation en est exactement l'image. Vous êtes devenu chrétien. La confirmation ou la chrismation est le sacrement de l'Esprit Saint. Alors, de même que le baptême configure au Christ ressuscité, mort et ressuscité, la chrismation configure au Christ oint par l'Esprit. Et par l'onction, nous sommes greffés sur l'onction du Christ. Vous n'êtes pas seulement conforme à l'image du Christ, mais participons à son esprit. Voici pourquoi Cyril de Jérusalem vous appelle des Christ. Vous avez reçu une onction, une marque, une empreinte, le sceau de l'Esprit Saint. Ces mots nous laissent déjà entrevoir la portée spirituelle que Cyril donne à cette marque de l'Esprit Saint. C'est un signe d'appartenance du troupeau du Christ. C'est un signe qui donne la force pour combattre et témoigner. Par le sceau, l'Esprit Saint nous revêt son armure, que nous puissions participer à la victoire du Christ sur le mal. Par sa chrismation, le baptisé revêt la force du Saint-Esprit pour lutter. Car il y a lutte à prévoir contre le mal, comme le Seigneur qui fut poussé par l'Esprit et conduit au désert où il fut tenté. Il y a donc lutte, effort, zèle et persévérance à déployer pour conserver l'image de l'homme nouveau donné au baptême, mais aussi pour retrouver la ressemblance à laquelle nous avons été créés. Par le baptême, notre image est restaurée, mais pour retrouver la ressemblance avec Dieu, c'est notre responsabilité. Et le baptisé revêt aussi l'esprit de force pour témoigner du Christ dans son propre milieu, par ses propres moyens, et c'est ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. Les dons de l'Esprit Saint sont à l'œuvre chez nous tous. À nous d'être attentifs et ingénieux au souffle de l'Esprit. Le Christ a été chrismé de l'huile d'allégresse spirituelle et vous avez été chrismé de parfum, devenu compagnon et participant du Christ. Voici ce que Cyril de Jérusalem disait au néophyte, au nouveau baptisé. Alors le Seigneur a été oint tout de suite après son baptême par le Père qui l'avait désigné par avance comme sauveur de l'univers, d'après les paroles de Pierre au centurion. Au centurion Cornet. Et le prophète Isaïe, en prophétisant au sujet du Christ, disait: Dieu, ton Dieu, t'a chrismé d'huile d'allégresse, comme nul de tes pères. Et vous, vous l'avez été d'une huile parfumée par l'évêque ou le prêtre. Et nous en avons ici l'enfant. Alors, qu'est-ce que l'huile d'allégresse? Selon la tradition, le psaume 44, psaume nuptial de Salomon, qui était relu par les chrétiens comme le psaume pour les noces du nouveau Salomon Jésus-Christ avec son Église, il est dit au roi, le Christ: tu aimes la justice, tu éprouves le mal, tu réprouves le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction d'une huile d'allégresse comme à nul de tes peurs. Par l'onction, c'est le même Esprit Saint répandu sur Jésus qui se déverse sur nous. Par son évangile, dans la bonne nouvelle que nous sommes réconciliés avec le Père, que Dieu nous connaît chacun et chacune par notre nom, qu'il est bon et que sa bonté a un pouvoir au-dessus de tout pouvoir. L'huile d'allégresse qui a été répandue sur le Christ et de lui à nous, c'est son Esprit Saint. Le don de l'amour qui nous rend heureux, sereins, malgré les situations de la vie. Qui nous donne la capacité de partager la souffrance de l'autre aussi. Et d'être disponible pour manifester la bonté de Dieu. Dans l'Église antique, l'huile consacrée a été considérée d'une manière particulière comme signe de la présence de l'Esprit Saint. L'huile de parfum, c'est le Saint-Crème qui est utilisé pour l'onction. C'est un mélange d'huile d'olive, de baume et de parfum sur lequel il y a une consécration par l'évêque. Et Saint-Cyril mentionne: il y a épiclès sur les dons lors de l'Eucharistie, le pain devient le corps du Christ, il y a consécration du Saint-Crème, une épiclès qui fait que le Saint-Crème n'est plus un parfum, mais il est don du Christ, devenu par la présence de l'Esprit efficace de sa divinité. Efficace car nous sommes assimilés à Jésus par la communication de l'Esprit Saint. Dès lors, les chrétiens aussi peuvent s'appeler des Christ. Ils sont chrétiens dans la plénitude du bon. Efficace car nous recevons une empreinte, un sceau imprimé par l'Esprit Saint pour frapper l'âme à l'effigie du Seigneur. De ce parfum visible, le corps est chrismé, mais du Saint vivifiant esprit, l'âme est sanctifiée. Saint Augustin, dans son commentaire sur la première épître de Saint Jean, va distinguer signe sensible et mystère invisible. Avec lui le symbolisme de l'huile, mais de l'huile qui pénètre. Je pense que ça c'est le symbolisme, l'huile pénètre, c'est le signe sensible. De l'autre, c'est l'action de l'Esprit Saint qui simultanément produit dans l'âme un effet de sanctification. C'est le mystère invisible. Alors, l'âme est sanctifiée. L'Esprit est l'universel sanctificateur. Je crois en l'Esprit Saint. La sainteté fait partie de la substance de l'Esprit Saint, nous dit Basile de Césarée dans son traité sur le Saint-Esprit. Alors, le salut apporté par le Christ consiste en une assimilation à Dieu, qui aboutit à une véritable déification. L'Esprit délivre, vivifie, enseigne, sanctifie. L'Esprit joue un rôle d'introducteur, de guide et de sanctificateur. C'est par une illumination progressive que l'Esprit déifie en fournissant à toute puissance rationnelle pour la découverte de la vérité une sorte de clarté. Mais il y a toujours un mais maintenant. Et c'est le mais que nous devons. Et avec ce mais, c'est ce mais qui nous met sur la route pour lutter, pour travailler. Il ne se communique qu'à ceux qui ont sanguiné. Basile ne nous prend pas comme ça gentiment. Il nous dit les choses. Il distribue son opération à proportion de la foi. Pour qu'en partie, la partie la plus haute de l'âme brille la clarté spirituelle et qu'elle bénéficie de la présence de l'Esprit, il faut qu'elle en soit capable. Il faut être purifié de la laideur pétrie par le vice pour fixer un regard limpide. Il y en a d'autres aussi. Il y a beaucoup de bonnes choses à lire avec sur l'Esprit Saint, sur son rôle. Son rôle, ça présente en nous. Alors, par son action, l'Esprit élève, conduit, aide à progresser, illumine. Et voici une belle citation de Cyril de Jérusalem au sujet de l'action de l'Esprit Saint. Trouvez ça dans la catéchèse 16, numéro 7. Parce que comme je vous ai dit au début, il a fait, ça c'est les catéchèses mystagogiques, mais il en a fait d'autres catéchèses. Regardez qu'est-ce qu'il va dire de l'Esprit Saint. L'Esprit vient avec les entrailles d'un tuteur légitime. Il vient sauver, guérir, enseigner, conseiller, fortifier, éclairer l'intelligence d'abord de celui qui le reçoit, puis par lui les autres. Et les conséquences pour le croyant, intelligence des mystères, participation à la vie divine, la ressemblance avec Dieu. C'est Jésus qui dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». La barre est très haute, elle est là, elle est là. Maintenant, le rite de la chrismation. Avec Cyril, nous retrouvons l'onction avec le Saint-Crème, immédiatement après le baptême, conférant le don du Saint-Esprit, une fois que le baptême a donné la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alors, je vais demander à Madame Boisvert de lire le texte.
Et d'abord, vous êtes chrismés sur le front, afin d'être délivrés de la honte que le premier homme transgresseur portait partout, et pour que, la face découverte, vous réfléchissiez comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ensuite, sur les oreilles, pour recevoir des oreilles dont Isaïe disait « Et le Seigneur m'a donné une oreille pour entendre ». Et le Seigneur, dans les évangiles, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ensuite, sur les narines, afin qu'en recevant ce parfum divin, vous disiez, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés. Après cela, sur la poitrine, afin qu'ayant revêtu la cuirasse de justice, vous résistiez aux manœuvres du diable. De même, en effet, que le Sauveur, après son baptême et la venue de l'Esprit-Saint, s'en alla combattre l'adversaire, de même, vous aussi, après le Saint-Baptême et la chrismation mystique, revêtus de la panoplie de l'Esprit-Saint, résistez à l'influence adverse et combattez-la en disant « Je puis tout en celui qui me rend fort, le Christ ».
Alors, vous voyez, la chrismation avec Cyril de Jérusalem, ce qu'il dit, c'est que les nouveaux baptisés ont eu une onction sur le front, sur les cinq sens. Lui, c'était comme ça. Eh bien, dans cette catéchèse, sur l'imposition des mains. Pourtant, j'ai été vérifié moi-même, dans la 17e catéchèse de Saint Cyril, il parle alors de la main des apôtres pour accomplir des signes. Supposer que pour Cyril, l'imposition des mains de la main se confondait avec l'application du Saint-Crème. Aujourd'hui, lors de la confirmation, les dons de l'Esprit-Saint sont conférés par le Saint-Crème sur le front. Aujourd'hui, c'est fait en imposant la main et avec la formule « Sois marqué de l'Esprit-Saint le don de Dieu ». Lors de la veillée pascale, l'évêque ou le prêtre, parce que vous savez maintenant que dans les paroisses où il y a de la formation, à la veillée pascale, le prêtre peut demander une autorisation spéciale à l'évêque pour confirmer, baptiser et confirmer. Alors, s'adresse aux adultes et leur dit, alors c'est une petite formule prise du RICA, vous êtes né, le RICA c'est le livre qu'on utilise pour les adultes, l'initiation chrétienne des adultes. Vous êtes né à une vie nouvelle. Vous êtes devenu membre du corps du Christ et de son peuple sacerdotal. Maintenant, accueillez l'Esprit Saint qui a été répandu au milieu de nous le jour de la Pentecôte. Et le prêtre ou l'évêque impose la main sur tous, pas individuellement sur tous, fait une prière et demande à Dieu de répandre sur eux l'esprit et énumère les dons. Puis le prêtre ou l'évêque plonge son pouce dans le Saint-Crème et marque sur le front des baptisés ou des confirmés, ça dépend, en disant la même formule, soit marqué de l'esprit don de Dieu. Actuellement, on réfère au signe d'Hippolyte de Rome qui signait après avoir donné une onction ou après avoir étendu la main, il signait le front des nouveaux baptisés. La première onction du Saint-Crème, pour celle qui s'occupe des baptêmes des jeunes, la première onction du Saint-Crème, celle que le prêtre donne au baptême des enfants, est restée rattachée au rite baptismal. Elle signifie la participation du baptisé aux fonctions prophétiques, sacerdotales et royales du Christ. Si le baptême est conféré à un adulte, la veillée pascale surtout, même si ce n'est pas la veillée pascale, si c'est confirmé à un adulte, il y a une seule onction post-baptismale, celle de la confirmation. Alors, le nouveau baptisé reçoit la force de l'Esprit Saint et ses multiples dons. Tantôt, vous avez entendu, revêtu de la panoplie de l'Esprit Saint. La panoplie, c'est les dons et les charismes de l'Esprit Saint. Je vais juste vous donner un petit aperçu des 7 dons de l'Esprit Saint. Alors, et je vais les illustrer d'après Saint Augustin et Grégoire de Nice. Alors, les 7 dons, d'après ces deux pères de l'Église, sont comme une échelle qu'on gravit pour arriver à la sagesse. Alors, commence pas par la sagesse, finit par la sagesse. Mais quand on les énumère, on dit toujours la sagesse en premier. Commence par l'esprit de crainte, le respect, l'amour, la considération. L'amour parfait bannit la crainte, crainte le Seigneur. L'esprit de piété, l'esprit de piété nous relie à Dieu, nous place en sa présence. C'est le fil d'or qui nous relie à sa présence. La science, pour chercher, pour développer une certaine intuition de Dieu par l'attention à sa parole. Je n'ai pas dit d'aller faire un doctorat, je n'ai pas dit ça. J'ai dit chercher à développer une certaine forme d'intuition. L'esprit de force, mais ça, je l'ai répété plusieurs fois, puis le Seigneur le dit même, vous allez recevoir une force. Car sans l'énergie, la force de caractère, la ténacité, la persévérance, les meilleures idées, les meilleures résolutions tombent d'elles-mêmes si on n'a pas la force du Seigneur pour avancer. L'esprit de conseil, il agit en direction du prochain surtout. Sa vocation est d'aller vers les autres pour être attentif. Et là, maintenant, on commence à monter un petit peu. L'esprit d'intelligence, pour comprendre, analyser, réfléchir, prendre conscience, un mot qu'on oublie parfois, que nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et maintenant, on arrive au sommet, l'esprit de sagesse, pour faire la part des choses dans notre vie, avoir un bon discernement. Et pour ceux et celles qui travaillent les béatitudes, c'est très facile de les conjuguer, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils ont pris les béatitudes, ils les ont ajoutées avec les 7 dons, comme une échelle. Et on arrive, l'esprit de sagesse, faire la part des choses, avoir un bon équilibre, pas si facile que ça dans notre monde d'aujourd'hui, faire la différence entre le bien et le mal, parce qu'il existe, et trouver le chemin du bonheur, les béatitudes dont je vous parlais. C'est pour une autre fois, ça, les béatitudes. Alors, appelez chrétien maintenant. On va demander à Madame Boivet de lire.
Une fois jugé digne de cette sainte chrismation, vous êtes appelé chrétien, vérifiant par votre renaissance jusqu'à votre nom. En effet, avant d'avoir été jugé digne du baptême et de la grâce de l'Esprit-Saint, vous ne le méritiez pas exactement, mais vous faisiez route et alliez de l'avant pour être chrétien.
Merci. Alors, le mot chrétien vient de Christ. Être chrétien signifie provenir du Christ, appartenir au Christ, à loin de Dieu, à celui auquel Dieu a donné la royauté et le sacerdoce. Lui huile d'olive est ainsi d'une manière toute particulière le symbole de l'imprégnation de l'homme Jésus par l'Esprit Saint en nous. Or, au-dessus de tout honneur et toute gloire, de tout pouvoir, se trouve la dignité royale. C'est bien le pouvoir royal qui est exprimé avant tout dans le nom du Seigneur. Mais ça aussi, je vais vous le dire, et ceux qui voudront le lire, peut-être vous le connaissez, c'est le traité de perfection que Saint Grégoire de Nice a écrit. Alors, dans un traité de perfection, il nous montre que Saint Paul a vraiment découvert qui est Jésus-Christ. Pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné des attributs. Il nous a montré comment, à partir de tous ces attributs, comment il faut se comporter avec le nom que nous avons. Alors, dans ce traité de perfection, si vous lisez, je pense on peut aller recueillir dans les épîtres de Saint Paul, peut-être facilement, une trentaine de noms qu'il peut donner au Seigneur. Il va dire, le Seigneur est sagesse, il est paix, il est lumière, il est pardon, il est l'agneau pascal. Alors, Grégoire de Nice dit, il y a beaucoup aussi d'autres noms ajoutés, mais si nous rassemblons tous ces noms et leurs diverses significations, nous pourrons comprendre toute la grandeur de ce nom-là. Certains sont à imiter, comme la paix, la lumière, la sagesse, le pardon. Vous connaissez ici paix, pardon, vous avez deux béatitudes là-dedans. Bon, alors, Grégoire de Nice va dire, que doit faire celui qui est jugé digne de porter l'excellence du nom de chrétien? Ordonner continuellement en lui-même ses intentions, ses paroles, ses actes, afin que tous aboutissent à rendre témoignage au Christ. Saint Cyril nous dit, il est nécessaire que vous sachiez que cette chrismation, que de cette chrismation, le symbole se trouve dans l'Ancien Testament. Il va nous donner deux exemples. Il y en a d'autres, mais lui, il a choisi ces deux-là. Moïse qui donne l'onction à son frère Aaron et l'onction de Salomon. Si vous avez l'occasion d'aller lire dans le Lévitique, vous allez trouver toute la cérémonie de consécration des premiers prêtres où Dieu demande à Moïse de convoquer à la tente de la réunion Aaron et ses fils pour les consacrer. Alors là, premièrement, Moïse pour obéir, va demander à Aaron et à ses fils d'aller prendre un bain rituel. Voyez-vous, on fait le lien avec le baptême. Un bain d'abord. Et ensuite, il va consacrer la demeure avec l'huile d'onction. Et ensuite, il va consacrer Aaron en versant sur sa tête l'huile. Et il va demander à ses fils aussi de s'approcher. Dans Exode 22, on a toute la description du bassin et des purifications. Et les détails pour fabriquer l'huile sainte. Tantôt, je vais vous le dire. Et dans Exode 30, vous avez toute la recette de l'huile sainte. Ben, vous allez constater que ce sont des arbres qui poussent au Moyen-Orient. Alors, divers types d'onctions, dans l'Ancien Testament, on utilisait l'onction pour introniser, sacrer un roi, un prêtre ou un prophète. Je vais vous donner la symbolique. L'huile a une vaste signification. L'onction dans la symbolique biblique est antique et riche. L'huile est signe d'abondance, de joie. Elle purifie, elle rend souple, elle entraîne, procure la vigueur, signe la guérison, adoucit les contusions et les plaies. Elle rend rayonnant de beauté, de santé, de force. Elle est une nourriture, un médicament. Le roi et les prêtres sont oints avec l'huile, qui est ainsi un signe de dignité et de responsabilité. L'huile imprègne et diffuse. Alors, ainsi chrismé de ce saint parfum, ça c'est Cyril qui dit, ainsi chrismé de ce saint parfum, gardez-le sans tache et irréprochable en vous, progressant en bonnes œuvres et cherchant à plaire à l'auteur de notre salut, le Christ Jésus, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Pour que l'Esprit opère en nous, par ses dons, l'âme doit toujours se purifier de la laideur du vice. Alors, pour nous, il faut être la bonne odeur du Christ. Il nous faut être un vase d'honneur façonné par le divin potier. Que toute œuvre ancienne disparaisse et que notre marche, les penchants de la vieille nature, le cœur corrompu par le péché. C'est le travail de la grâce et de l'Esprit de Dieu, afin que le goût et l'odeur du vieil homme s'estompent par le revêtement de l'homme nouveau. Nous sommes appelés à répandre la bonne odeur du Christ, l'odeur de sa connaissance. Aussi, le Seigneur nous dit dans Matthieu, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et Saint Chrysostome ajoute, c'est à vous de veiller à ce qu'il ne cesse jamais de briller, non seulement pour vous, mais pour tous ceux que vous devez éclairer. Les âmes qui portent l'Esprit sont illuminées et diffusent par eux-mêmes un éclat. Je l'ai dit tantôt et c'est dans Basile. Alors, le néophyte, c'est-à-dire le nouveau baptisé, les chrétiens, nous tous, nous devons briller surtout par l'éclat de notre conduite, ça c'est Saint Jean Chrysostome qui le dit, et manifester les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience. La perfection véritable, c'est ne jamais s'arrêter, accroître son effort vers un nouveau palier. C'est pour ça qu'il faut commencer par mettre la barre haute. Ne mettre aucune borne à la perfection. Le 8 juin prochain sera la fête de la Pentecôte. Demandant à l'Esprit de renouveler ses dons. Disons-lui, viens Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Alors, je vous remercie de votre attention.